semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue hebdomadaire des principaux événements de la semaine écoulée, grâce au reportage de la rédaction bien sûr. Aujourd'hui, nous allons nous rendre aux États-Unis, en Birmanie, au Liban, en Centrafrique aussi, avec notre envoyé spécial, Florence Maurice. Nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la revue Esprit, notre partenaire. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver podcasté sur le site de la radio, www.rfi.fr, ou sur votre moteur de recherche préféré. Avant d'écouter Anne-Lorraine Bujon, partons pour la Libye. 10 ans après la chute de Kadhafi, un événement commémoré sur fond de division profonde. Reportage à Tripoli d'Abla Jounaidi.
Le sang des martyrs ne sera pas versé en vain. Les slogans et les symboles de la révolution du 17 février s'affichent plus fort que jamais à Tripoli. La ville n'oublie pas la longue et féroce guerre qui l'opposait encore l'an dernier au maréchal Haftar, Mohamed El-Chenewi, ancien rebelle de Tripoli.
Nous célébrons notre révolution ici, mais dans l'Est et le Sud, les gens ne sont pas libres de le faire. On a attaqué des gens qui tentaient de venir de Sebha. Il y a des contre-révolutionnaires qui nous font encore la guerre.
Le coup de force de Haftar a réactivé la bataille de légitimité entre le camp dit révolutionnaire et celui de l'auto-proclamée armée nationale libyenne du maréchal. Ahmed Larbi a perdu sa jambe lors de la bataille de Sirte en 2011. Il ne pourra jamais entrer dans une quelconque armée.
Moi, j'ai dû fuir Benghazi à cause de ce tyran de Haftar. J'espère que notre prochain gouvernement pourra organiser les élections et qu'on pourra vraiment choisir nos dirigeants. Pour qu'ils ne s'imposent plus par la force. Les rebelles ne veulent plus se battre pour des chefs, ils veulent entrer dans une armée, une police nationale.
En réponse aux manifestations célébrant le 17 février, le verre de la Jamaïria de Kadhafi était sorti dans les rues de Sirte ce mercredi.
Dans l'actualité cette semaine, je vous rappelle d'emblée également que la NASA a réussi jeudi à poser sur Mars Perseverance, le 5e véhicule seulement à avoir réussi le voyage sans encombre, mais le premier à afficher comme objectif de trouver dans les années à venir une preuve de vie passée sur la planète rouge. C'est une belle image dans l'actualité. Cette semaine, elles sont suffisamment rares pour pas en parler. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. C'est toujours un plaisir de commenter l'actualité en votre compagnie et en compagnie de la revue Esprit, puisque nous sommes partenaires désormais, cela fait déjà quelques mois. Nous avons parlé avec Anne Bujon, la rédactrice en chef de la revue, il y a un mois, de la revue papier intitulée Femmes en mouvement. C'est le numéro janvier-février, c'est le seul moment dans l'année où il y a un numéro qui couvre deux mois.
Deux fois par an, on fait un numéro double en fait, donc en janvier-février et en juillet-août. Donc le dernier juillet-août, c'était depuis l'Afrique, c'était un numéro...
Bien, on parlé ici.
Et puis, ce numéro de janvier-février, Femmes en mouvement, donc, qui est un numéro sur les multiples mouvements dans lesquels les femmes sont centrales. Qui est notre numéro double d'hiver, donc.
Un numéro qui parle aussi de l'actualité, notamment aux États-Unis. On en avait effectivement parlé, les relations transatlantiques, entre autres choses, et aussi la contestation, pour ne pas dire plus, en Russie, avec Navalny.
Oui, avec un bel article de Marie Mindras intitulé « La vie devant soi » où elle retrace un peu le parcours de cet opposant hors norme, son courage mais aussi son intelligence politique et tactique, puisqu'il a réussi en fait à lier la question de la corruption économique, du pouvoir disproportionné des oligarques en Russie et même de l'enrichissement personnel de Poutine, avec la question de la corruption politique en disant tous ces gens non seulement vous volent votre argent, mais ils vous volent aussi vos voix, ils vous empêchent de vous exprimer et on voit là que le mouvement de soutien à Navalny, malgré la dureté de la répression, se poursuit. Donc ça fait partie des choses qu'il faut surveiller, comme ces multiples mouvements pro-démocratiques en Biélorussie, à Hong Kong et ailleurs.
Alors Anne-Lorraine, nous avons convenu cette semaine de parler du site, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé au cours de nos précédentes émissions, du site d'Esprit, qui est aussi riche que la revue.
Oui, le site dont je rappelle l'adresse www.esprit.presse.fr est devenu une véritable plateforme de publication en fait à part entière et il est riche de toutes les archives de la revue. Donc c'est important parce que tous les numéros de la revue Esprit depuis sa fondation en 1932, rappelons-le, existent donc sous forme numérique et on les retrouve sur ce site internet ainsi que les numéros les plus récents. Et à côté des numéros imprimés, ce travail de la revue mensuelle continue vraiment de structurer notre travail intellectuel et éditorial et on y tient beaucoup. Mais à côté de ce travail de republication des numéros imprimés, nous publions aussi des articles qui sont écrits et édités spécialement pour le web. Et puis depuis 2 ou 3 ans, nous avons fait quelques expériences de format vidéo, de format audio, donc on trouve aussi des entretiens filmés, des conférences et des podcasts sur notre site, et puis un ensemble de dossiers thématiques qu'on a recomposés à partir de nos archives sur des questions que la revue a suivies au long cours, comme la question de la décolonisation par exemple. Donc on essaye de faire cet effort de reformer des bouquets thématiques.
Donc j'invite les auditeurs à aller sur ce site dont on rappelle l'adresse, Anne-Laurène.
esprit.presse.fr.
Alors un site dans lequel on peut trouver des articles aussi de la revue consacrés aux printemps arabes.
Oui, alors, on a commencé l'émission par cette évocation de la situation en Libye et c'est vrai que j'étais surprise de me dire 10 ans déjà.
Comme alors, le temps passe.
On se souvient des espoirs suscités à l'époque par ces révoltes, d'abord en Tunisie, puis en Égypte, puis en Libye, de ce sentiment qu'il y avait un effet de contagion, que peut-être effectivement ces pays allaient s'ouvrir, que l'emprise des régimes autoritaires allait se relâcher. Et au bout de 10 ans, on réfléchit à ces espoirs déçus et à la situation très difficile dans un ensemble de ces pays. Alors, ce sont des questions avec peut-être juste la Tunisie où quand même on voit qu'une transition démocratique s'est amorcée. Donc, ce sont des questions que la revue a suivies tout de suite dans le feu de l'action. Alors, on trouve par exemple dans nos archives un numéro en juin 2011 autour d'un dossier « La corruption, la peur et la révolte ». Donc, on avait essayé de rassembler un certain nombre de réflexions sur ce qui se passait à l'époque, principalement en Tunisie et en Égypte, mais aussi une journée de conférences, comme je vous disais, des conférences filmées, donc le 24 juin 2011, avec un ensemble de tables rondes consacrées à ce qui se passait. Et puis, plus près de nous, donc on a revisité cette question de loin en loin. Il y a eu un nouveau numéro, « Europe, Moyen-Orient, nos destins liés », en 2016. Et bien sûr, la question de la guerre en Syrie qui a beaucoup occupé la revue. Et il y a un groupe de réflexion à la revue Syrie-Europe après Alep qui s'est réuni régulièrement et qui a publié des bulletins d'information sur la guerre en Syrie. Voilà. J'ajoute encore que quand on repense aux 10 ans écoulés depuis les soulèvements, y compris en Libye, on voit comment cette question de l'intervention, fallait-il ou non intervenir, a évolué aussi depuis, avec le retour à une politique plus réaliste, pourrait-on dire, et aux États-Unis et en Europe, avec beaucoup de voix qui s'élèvent contre l'intervention, en prenant la Libye comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais on aime à rappeler dans la revue aussi qu'il y a des coûts à la non-intervention, comme en Syrie, comme je le disais.
Sept jours dans le monde. Partons maintenant à Anne-Laurène pour un pays que vous connaissez bien, les États-Unis. Donald Trump a été acquitté il y a juste une semaine par le Sénat qui jugeait l'ancien président pour incitation à l'insurrection à la suite des violences au Capitole le 6 janvier dernier. 57 sénateurs ont voté pour la culpabilité, 43 contre. La majorité des 2/3 nécessaires à la condamnation n'a donc pas été atteinte. Correspondance alors de Thomas Harms.
Au soir de l'acquittement de Donald Trump, le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, ne masquait plus qu'il voulait éloigner son parti de la mainmise de l'ancien président.
There's no question. Il n'y a aucun doute, le président Trump est concrètement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements du 6 janvier. Nous avons une justice criminelle dans ce pays. Le président Trump est toujours responsable devant la loi pour tout ce qu'il a fait quand il était en poste, comme un citoyen ordinaire. Il n'est pas tiré d'affaire, pas encore.
Donald Trump, retiré en Floride, aurait confirmé à des proches avoir des craintes d'être poursuivi en justice pour incitation à l'insurrection. Pour autant, un de ses proches, le sénateur Lindsey Graham, l'a eu au téléphone et ce dimanche, il avait confiance dans son avenir chez les Républicains.
Il est prêt à aller de l'avant et à reconstruire le Parti républicain. Il est impatient d'être en 2022 pour les élections de mi-mandat. Il est prêt à se lancer et je suis prêt à travailler avec lui. La force la plus puissante qui existe dans le Parti républicain, c'est le président Trump.
Le Parti républicain va donc devoir composer avec un Donald Trump qui aurait d'ailleurs un peu abandonné son idée de créer un nouveau parti.
Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon qui dirige la rédaction de la revue Esprit. Alors parlons des États-Unis, je disais que vous connaissez bien ce pays. Donald Trump qui réaffirme plus que jamais sa volonté de continuer à faire de la politique et à peser sur les républicains.
Oui, ça fait partie de ce qui est devenu très clair en fait dans ces 3 mois de transition chaotique depuis l'élection de novembre. Il me semble que 3 choses deviennent très claires. D'abord que les mensonges, la désinformation, les théories du complot les plus extravagantes ont vraiment prospéré comme jamais sous le président Trump. Que c'est peut-être même ça la vérité de son mandat, c'est l'existence
c'est peut-être sa marque de
ces faits alternatifs dont on avait entendu parler dès son arrivée au pouvoir. Mais je crois qu'avec l'insurrection au Capitole, on a mesuré à quel point cette violence sur les réseaux sociaux, cette violence des discours, cet usage très personnel de la liberté, des faits, de la vérité, pouvait conduire à de la violence bien réelle. Donc on a vu que ça n'était pas qu'une question de réseaux sociaux et je crois qu'on voit tous les dangers de cette façon de faire de la politique où tous les coups sont permis. Alors dans nos archives, parmi les articles que nous avons préparés pour le web, il y a un article de Michael Barrett sur l'insurrection au Capitole où il explique comment le mythe de l'élection volée, cette histoire réellement rocambolesque que Donald Trump a montée de toutes pièces, pourrait devenir une sorte de mythe unificateur pour la droite nationaliste, suprémaciste, comme l'a été la cause perdu après la guerre de sécession.
Oui, parce qu'il y a encore des Américains qui croient que cette victoire a été volée. Hein.
Qui le croient dur comme fer, qui l'affirment. Dès le lendemain de l'insurrection au Capitole, en fait, il y avait des sénateurs qui ont encore refusé de certifier les votes pour Joe Biden. Donc on voit que cette histoire risque d'avoir un avenir, même si on sait qu'elle est fabriquée de toutes pièces. La deuxième chose qui paraît très claire maintenant pour moi, ça a été beaucoup commenté, c'est le point auquel ce pays est divisé. Aujourd'hui, donc le point auquel il est en crise sanitaire, sociale, économique, politique, et la difficulté que Joe Biden va avoir à gouverner les États-Unis et à surmonter cette crise dans ce climat politique extrêmement polarisé.
Joe Biden qui ne veut plus entendre parler de Donald Trump. Hein.
Mais Joe Biden aimerait pouvoir passer à autre chose, embrayer. Il a du pain sur la planche et on voit que Donald Trump n'est pas simplement un mauvais rêve qui va se terminer comme par enchantement. Alors un autre article dans nos archives de Nils Planel intitulé « Après Trump » met en perspective de façon assez intéressante cet état de division politique des États-Unis et rappelle que ça remonte loin, il faudrait remonter presque jusqu'à l'ère Clinton, mais en tout cas se souvenir de la succession de 3 mandats très difficiles, celui de George W. Bush, puis celui de Barack Obama, puis celui de Donald Trump, qui ont à chaque fois contribué à creuser ces divisions entre droite et gauche aux États-Unis, entre démocrates et républicains, divisions qui se jouent beaucoup sur des questions sociétales, mais donc dans un climat qui ne s'apaise pas. La troisième chose qui est très claire pour moi, c'est que Donald Trump a vraiment réussi un hold-up sur le parti républicain. Donc là, on voit que, comme prévu, la deuxième procédure d'impeachment n'a pas pu aller à son terme.
La deuxième, quand même, c'est quand même
la
unique.
La deuxième, hein. Et qu'on ne l'a pas destitué a posteriori. Donc ici, je vous renvoie à un article d'Anne Desine, publié sur notre site aussi, sur la question de l'impunité, les dangers de l'impunité. Voilà un président qui a transgressé un nombre de règles inqualifiables, au mépris de la loi, tout simplement. Je pense qu'un certain nombre des agissements de Donald Trump sont criminels. Sur l'insurrection au Capitole, il est assez clair qu'il a incité les manifestants à marcher sur le Capitole.
Les images et les
malgré
sons le prouvent.
Cela, le Parti républicain reste vraiment à sa main et il pourrait se représenter. Cauchemar.
Cauchemar, comme vous dites. Alors, direction la Birmanie maintenant, Anne-Lorraine, avec le début de la répression après le coup d'État. La mobilisation anti-junte se poursuit dans ce pays avec une grande manifestation à Rangoon quasiment tous les jours, malgré la crainte d'une escalade des violences. Cléa Brandhurst a fait un point, par exemple, au début de la semaine, lundi.
Les gens ont continué à manifester dans les rues du pays ce lundi, non sans crainte, car le régime militaire est en train de mettre en place une répression de grande ampleur. Troupes déployées dans plusieurs villes du pays, tant que dans les rues, arrestations de nuit massives, l'armée fait tout pour contrer le mouvement de désobéissance civile qui menace de paralyser le pays. Pour le moment, l'armée tente de réprimer le mouvement par l'intimidation. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à tirer, a priori, des balles en caoutchouc sur des manifestants. Au moins 400 responsables politiques, militants, médecins, étudiants ont été arrêtés depuis le putsch il y a deux semaines. Les militaires ont averti que les protestataires pourraient encourir jusqu'à 20 ans de prison s'ils entravaient les forces armées. De longues peines pourraient être infligées contre ceux qui, je cite, incite la haine ou le mépris envers les généraux qui ont pris le pouvoir. Par ailleurs, l'avocat d'Aung San Suu Kyi a déclaré lundi qu'elle allait être maintenue en détention jusqu'à mercredi. Elle apparaîtra en vidéoconférence pour son audience devant un tribunal dans le courant de la semaine. Pour rappel, elle est accusée d'avoir importé illégalement une dizaine de talkie-walkie dans le pays.
Et vous avez suivi cela dans nos journaux tout au long de la semaine. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, dit Hamlet dans Shakespeare. Au Liban aussi, pense la population du pays. Sachez que la cour de cassation libanaise a en effet récusé jeudi le juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth l'été dernier. Des militants fustigeant une parodie de justice ont manifesté. Correspondance de Beyrouth, signée Noé Pignade.
Devant le palais de justice de Beyrouth, quelques dizaines de manifestants se réchauffent autour d'un grand brasier qui bloque la rue. Des familles de victimes de l'explosion du port venues crier leur colère et réclamer justice. Yousra Abou Saleh brandit le portrait de son fils Ibrahim. Il avait 20 ans.
Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour protester contre le renvoi du juge Sawan. Il voulait arrêter des membres du Parlement. C'est pour ça qu'ils l'ont écarté. Parce que des hauts responsables politiques sont impliqués. Nous voulons la vérité, pas d'un autre juge qui nous dira que l'explosion du port de Beyrouth est un hasard. Tout le monde disait que le juge Sawan était bien, alors pourquoi ils l'ont récusé ?
Mahedine, lui, a perdu son père dans la double explosion du port.
Il était à la maison, la déflagration a fait exploser la porte et l'a éjecté contre le mur. Il est resté 31 jours dans le coma, en soins intensifs, avant de mourir. Après ce qui vient de se produire aujourd'hui, nous ne ferons plus jamais confiance à la justice libanaise. Ils pensent que nous allons laisser tomber, que 6 mois suffisent pour que l'on oublie ce qui est arrivé à nos familles. Mais c'est impossible. Nous descendons tous les jours dans la rue et nous continuerons de manifester.
Pour ces familles, la récusation du juge Sawan est une nouvelle preuve de l'impunité de la classe politique libanaise. Beaucoup réclament désormais un tribunal international pour que les responsables de la mort de leurs proches soient traduits en justice.
Dans l'actualité, notez également que 2 journalistes belarusses ont été condamnés jeudi à 2 ans de prison ferme. Elles sont accusées d'avoir fomenté des troubles en couvrant le mouvement de contestation de 2020, une nouvelle illustration de la répression orchestrée par le régime. Et là, je pense à votre dossier « Femmes en mouvement », Anne-Lorraine Bujon. On constate donc que la démocratie est en péril dans beaucoup de parties du monde. Alors que dans les parties du monde où cette démocratie est supposée avancer, il y a comme une fatigue.
au contraire.
Oui, on a ce sentiment, on parlait des États-Unis à l'instant, qui traversent une crise démocratique. Alors, dans la dernière séquence, certaines personnes voient surtout que les institutions ont tenu. Moi, avec l'impunité de Donald Trump dont on parlait, j'ai l'impression qu'elles ont plutôt montré leur fragilité. Et puis, il y a cet état de division interne du pays, mais on pourrait parler aussi de ce qui se passe en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc, le sentiment que là où on croyait la démocratie consolidée, effectivement, elle est fatiguée, elle est en crise. Mais là où les gens vivent sous des régimes très très autoritaires, très répressifs, on voit au contraire que l'aspiration à la liberté est bien vivante et que les gens sont prêts à se mobiliser, vraiment précisément pour tout ce qui constitue la démocratie et l'état de droit, la liberté d'expression, mais aussi une presse libre, des juges indépendants, des universités où on peut écrire, réfléchir, parler de ce que l'on souhaite. Et donc les gens sont prêts au péril de leur vie, et souvent les femmes, donc pour faire le lien avec notre dernier dossier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ces mouvements de protestation en Biélorussie, en Russie, je ne sais pas si c'est le cas en Birmanie, mais il faut saluer le courage de ces manifestants qui, dans des endroits où on peut payer très cher le fait de descendre dans la rue, continuent de le faire parce qu'ils pensent qu'à long terme, leur société ne peut pas vivre étouffée de cette façon.
Alors, Biélorussie, Russie, Soudan, même, sont autant de pays que vous traitez dans la situation est traitée dans le site avec des articles très, très différents. Par exemple, pour la Russie de Marie Mindras ou de Jean-Philippe Béja sur Hong Kong.
Voilà, Jean-Philippe Béja a fait une série d'articles depuis la révolte des parapluies à Hong Kong jusqu'à la dernière vague de protestation pour la démocratie et malheureusement la répression par le régime de Xi Jinping avec un dernier article intitulé « La fin de Hong Kong » avec un point d'interrogation quand même. Espérons que ce ne sera pas la fin de Hong Kong. Mais la question démocratique a toujours été au cœur des préoccupations de la revue Esprit et c'est important de pouvoir parler de ce qui se passe à travers le monde. Je pense aussi à un dernier article que nous avons publié tout récemment sur la crise politique au Pérou où on est de nouveau devant une vague de protestations. Et c'est toujours la question de la corruption en fait des dirigeants qui se retrouvent au centre des revendications des manifestants.
Une semaine d'actualité.
Et arrêtons-nous un instant en France, Anne-Lorraine Bujon. En France, après les cyberattaques des hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information assure qu'aucune rançon ne sera versée aux hackers et se veut rassurante. Grâce à des sauvegardes, les deux établissements vont pouvoir, d'ici quelques semaines, récupérer en principe l'ensemble de leurs données. L'Élysée a été rattrapée en quelque sorte par l'actualité, car jeudi, Emmanuel Macron a présenté justement la stratégie de son gouvernement en matière de cybersécurité, Marie Casadebé.
En 2020, les attaques informatiques ont augmenté de 250% sur la planète. Tous les secteurs, tous les pays sont touchés. Les établissements de santé ne sont pas forcément les premières cibles des hackers. Les attaques sont souvent très larges. Le tri des cibles se fait ensuite en fonction de la pêche. Or, en période de crise sanitaire, les hôpitaux pourraient être plus à même de céder à la pression. En France, les secteurs des médias, des transports, de la banque, sans oublier du numérique, ont aussi été pris pour cible. Il s'agit de secteurs de plus en plus connectés. Or, la croissance des moyens, notamment des personnes formées à la cybersécurité, ne suit pas la courbe croissante des besoins. L'objectif du président, c'est donc de développer un secteur français encore trop faible, de faire passer son chiffre d'affaires de 7 milliards à 25 milliards d'euros en 2025 et de multiplier par deux les emplois. 500 millions iront directement à la recherche et au développement. Un campus verra le jour dans quelques mois dans le quartier de la Défense pour réunir une soixantaine d'entreprises publiques et privées et de nouvelles formations seront créées. Ce milliard supplémentaire permettra également d'aider les hôpitaux, les administrations, les collectivités locales à se protéger, car désormais plus aucune structure, petite ou grande, riche ou non, n'est à l'abri de cette délinquance numérique.
Il vous faut savoir également que les indépendantistes ont remporté mercredi la majorité au gouvernement collégial de l'archipel français de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire dans le Pacifique Sud, pour la première fois depuis l'accord de Nouméa de 1998, qui a mis en œuvre un processus de décolonisation inédit en France et avant un ultime référendum sur l'indépendance d'ici 2022. Un peu d'espoir, Anne-Lorraine Bujon, espoir d'un retour ou presque au monde d'avant, évoquant en effet la perspective d'une reprise des concerts, mais sous certaines conditions en France, Marine de la Moissonnière.
Cela fait déjà plusieurs semaines que des responsables de festivals inspirés par les bons résultats d'une expérience menée à Barcelone à la mi-décembre font pression pour que des initiatives semblables soient mises sur pied en France. Certains avaient même lancé des groupes de travail et commencé à définir les protocoles sanitaires avec l'aide de médecins et de scientifiques. Le ministère de la Culture s'est finalement laissé convaincre et a donné son feu vert. Si la situation sanitaire le permet, des concerts tests seront organisés au Dôme de Marseille et à l'Accor Arena de Paris en mars et en avril, des concerts debout ou assis avec masque et gel, test avant et après. À Marseille, c'est l'Inserm qui chapeaute l'expérience. Les 1000 participants applaudiront les rappeurs d'IAM. Dans la capitale française, c'est l'APHP qui définit le protocole sanitaire et sélectionnera les 5000 spectateurs. Contrairement à Marseille, aucun ne pourra être positif au Covid. Les résultats de ces études seront dévoilés lors d'un colloque scientifique européen qui se tiendra dans la cité phocéenne le 8 avril. Objectif, définir un modèle qui permettra aux spectacles et festivals de reprendre avant l'été.
Drôle d'ambiance, Lorraine, des concerts patronnés, parrainés, surveillés par la PHP par exemple, les hôpitaux de Paris.
Oui, l'ambiance. Pas exactement l'ambiance qu'on souhaiterait dans des grands concerts festifs. Voilà, je crois que tout le monde comprend le besoin d'être prudent, mais c'est vrai que l'absence de culture, l'absence de musée, de cinéma, de concerts
commence à peser
très lourdement et sur nos imaginations et sur nos capacités à vivre ensemble et notamment sur la jeunesse, évidemment.
Ouais. L'actualité cette semaine, Anne-Lorraine, c'est aussi des propos une décision de prise par Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a demandé une enquête scientifique, c'est entre guillemets, sur l'islamo-gauchisme dans les universités. C'est un débat qui monte et qui suscite la polémique et c'est un débat que vous suivez attentivement dans l'esprit.
Oui, alors c'est un peu le type même de polémique qui nous semble pas très constructive, à vrai dire. Donc on voit que la ministre de l'Enseignement supérieur est un peu en difficulté dans cette affaire. Elle n'est pas très cohérente parce qu'elle avait elle-même tenu plutôt des propos apaisants sur ce qui se passait à l'université il y a quelques mois à peine. Et là, elle reprend ce terme d'islamo-gauchisme dont la définition
est floue.
La définition, voilà, est pour le moins floue, parle de diligenter une enquête. Alors, de l'autre côté, le CNRS, les présidents d'université, parlent de police politique. Donc, on peut se dire qu'il y a aussi peut-être un poil d'exagération de ce côté-là. Mais si vous voulez, je pense que c'est un débat, malheureusement, où se mélangent toutes sortes de questions que l'on aimerait distinguer soigneusement. Voilà, la question de savoir s'il y a effectivement des intellectuels qui se montrent complaisants avec l'islamisme. Bon, la question peut être posée. La question de la montée de formes de pensée très radicales, d'extrémisme, d'un retour d'une pensée plus idéologique à l'université. Peut-être en effet que ça existe, mais ça a toujours existé. Mais enfin, on peut parler politisation des sciences sociales. Voilà.
Dans des domaines comme le postcolonialisme ou le féminisme, ce sont des sujets qui reviennent souvent. Quand
voilà,
on parle
tout
de
à
cette,
fait. Si vous voulez, le problème, c'est que ces propos de la ministre, ils ne sortent pas de nulle part. Ils s'inscrivent dans une séquence. Donc, on a eu un premier temps au printemps dernier où le président Macron avait dit en privé que les universitaires seraient coupables d'avoir ethnicisé la question sociale et ainsi coupé la République en deux. Alors encore une fois, ce sont des propos qu'il avait tenus en privé, mais que certains ont été contents de rapporter. Je pense que c'était un premier pavé dans la mare de désigner les universitaires comme étant coupables d'une certaine radicalisation des esprits en France. Ensuite, il y a eu ce deuxième temps autour de l'assassinat de Samuel Paty avec un grand nombre de débats aussi où se sont mélangées toutes sortes de questions de libération liberté d'expression, de laïcité, d'islamisme, tout ça dans une grande soupe, alors qu'on aimerait au contraire distinguer soigneusement ces questions. Et là, c'était notre ministre de l'Éducation nationale qui a dit « l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université ». Et puis, ensuite, il a été relayé par une tribune de 100 universitaires qui ont accusé un certain nombre de leurs collègues d'être dans le déni de l'islamisme, semblant encore là désigner des ennemis. Donc cette séquence me semble préoccupante. On a parlé de crise démocratique tout à l'heure, d'avoir des responsables politiques qui s'en prennent à des lieux de production du savoir, au lieu de liberté académique que sont les universités, en semblant y désigner des coupables. Ça me paraît être effectivement une tendance très préoccupante. Et pendant ce temps-là, je crois qu'on occulte des vraies questions sociales qui divisent la France. Voilà.
Aussi la question du sort des universités au temps du Covid, aussi des étudiants.
Absolument. Il faut bien se dire que tout ça arrive dans un contexte où les universités souffrent énormément, les étudiants ne peuvent plus y aller, ils n'ont pas eu de cours en présentiel depuis des mois. On a vu les files d'étudiants devant les banques alimentaires. Donc il y a un vrai malaise à l'université. Et je ne suis pas sûre qu'il soit le fait de quelques universitaires radicaux qui cherchent à faire taire leurs collègues. On voit bien d'ailleurs que tout le monde se prévaut de la question de la liberté académique, d'un côté comme de l'autre. Donc, on somme les gens de choisir un camp pour ou contre l'islamo-gauchisme sans avoir défini ce terme au préalable. C'est vraiment le prototype même de la mauvaise polémique.
Alors parlons on peut se référer aux articles qui sont publiés sur le site d'Esprit pour alimenter la réflexion. Alors, je vous propose maintenant de partir en Afrique maintenant et de parler de la France en Afrique aujourd'hui avec le sommet du G5 Sahel au début de la semaine. Pas de réduction donc des troupes françaises dans cette région du monde pour le moment. Franck Alexandre.
Notre présence militaire au Sahel ne changera pas et nous allons lancer d'autres opérations majeures, assure Emmanuel Macron. La force Barkhane restera donc composée d'un peu plus de 5000 soldats et le renfort de 600 hommes décidé il y a un an à Pau reste par conséquent d'actualité. Pourtant, ces dernières semaines, fort des succès obtenus face à l'État islamique au Grand Sahara, désigné ennemi numéro 1, l'Élysée a bien réfléchi à réduire l'empreinte militaire française. Alors, le président Macron s'en explique. Si l'effort militaire a permis de sauver une seconde fois le Sahel, retirer massivement des hommes de Barkhane serait une erreur, estime-t-il aujourd'hui, et d'ajouter « nous fragiliserions les efforts accomplis jusque-là ». Si Barkhane, dans son format actuel, reste donc en place, le président ne renonce pas à une prochaine évolution. De nouvelles décisions seront prises à l'été, indique-t-il, lors d'un prochain sommet, et d'ici là, le chef de l'État veut des résultats militaires, cette fois contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et singulièrement contre la haute hiérarchie des Katibas affiliés, celle de Yad Agrali et la Katiba Massina d'Amadou Koufa. Un préalable, espère-t-il, pour pouvoir dans quelques mois annoncer un désengagement français.
Alors après ce sommet, quelles sont les réactions au Mali? Une réponse mardi avec Serge Daniel à Bamako.
Dans les milieux officiels, aucun doute, le prolongement de l'opération Barkhane dans le Sahel, mais plus particulièrement sur le territoire malien, est approuvé. À l'état-major de l'armée malienne, on s'en félicite même. Aujourd'hui, nos relations avec Barkhane sont meilleures à celles qui existaient avec l'ancien régime, commente un officier supérieur. Il poursuit, sur le terrain, nous menons de plus en plus d'opérations ensemble, la coordination est parfaite. L'ennemi commun reste les terroristes et là encore, pour l'armée malienne, la force Barkhane est très utile et son maintien sur le sol malien devrait permettre d'engranger d'autres résultats positifs. Mais le sentiment chez l'homme de la rue à Bamako est plutôt mitigé. Oui, la force Barkhane est utile, mais elle doit aller plus loin pour aider le Mali à recouvrer sa souveraineté sur tout le territoire national, expliquent plusieurs personnes interrogées. Les terroristes n'ont pas d'avions, d'hélicoptères. Barkhane doit aider plus à les vaincre, précise d'autres personnes. Ici, d'autres voix s'élèvent pour demander plus d'implication des forces armées des pays membres du G5 et moins de Barkhane pour assurer la sécurité sous-régionale.
—
La France en Afrique, aujourd'hui et hier, également autre temps, autre contexte, autre région du continent, 26 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Le journal en ligne Mediapart affirme avoir eu accès à un télégramme diplomatique français datant du 15 juillet 1994, demandant aux militaires français de ne pas interpeller des génocidaires dans la zone humanitaire qu'ils contrôlaient, Edmond Sadaka.
Le télégramme diplomatique provient des archives de Bruno Delay, conseiller Afrique de l'ancien président François Mitterrand. Des documents auxquels a eu accès le chercheur François Graner grâce à une décision du Conseil d'État au mois de juin dernier. D'après Mediapart, tout commence par une demande de l'ambassadeur français Yannick Gérard. Nous sommes en juillet 1994. Il voulait des instructions sur l'attitude à tenir face à la présence de responsables génocidaires dans la zone contrôlée par les militaires français. Et le diplomate estimait n'avoir d'autre choix que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée. Mais d'après le document révélé par Mediapart, le Quai d'Orsay, dirigé à l'époque par Alain Juppé, aurait préféré les laisser partir. Le télégramme adressé au seul ambassadeur le suggère on ne peut plus clairement. Il demande d'utiliser tous les canaux indirects pour transmettre à ces personnes le souhait de la France qu'elle quitte la zone humanitaire sûre. Un télégramme signé Bernard Aimier, conseiller à l'époque d'Alain Juppé et aujourd'hui patron de la DGSE, les services de renseignement extérieur français.
Vous écoutez RFI, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction du magazine Esprit. Et quand on reparle du Rwanda, à quel moment, se demande-t-on, pourra-t-on faire la part des choses ?
Alors, à la revue Esprit, en fait, dès le mois de mai 2010, en fait, on avait travaillé un numéro France, Rwanda et maintenant. C'est un numéro qui avait été constitué après un voyage de plusieurs membres du comité de rédaction de la revue au Rwanda, dont Antoine Garapon, qui est magistrat, et puis Stéphane Audouin-Rouzeau, historien, qui écrit un très beau livre, Une initiation, sur ce qu'il a découvert au Rwanda et la façon dont ce génocide et l'histoire de ce génocide a percuté sa propre trajectoire d'historien. C'est vraiment un très beau livre que je vous recommande. Donc on posait déjà en mai 2010 ces questions, comment reconstruire la relation entre la France et le Rwanda, comment faire la lumière sur la responsabilité française, sur ce qui s'est passé, et notamment sur le fait d'avoir peut-être couvert la fuite des génocidaires. Aussi sur la façon dont l'histoire du génocide était difficile à établir de façon sûre et ferme, avec des tentatives de révisionnisme, de négationnisme. Et là, on voit aussi que ce débat n'est pas clos aujourd'hui encore. Et puis, sur ce que pouvait ou ne pouvait pas la justice pénale internationale dans ce genre de cas. Donc, on voit que tout ça, ce sont des dossiers encore largement ouverts. Et Joël Ubrecht signait un nouvel article sur cette question dans la revue Esprit en juillet-août 2019. La difficile introspection de la France au Rwanda, où il soulevait notamment cette question de l'ouverture des archives et de la possibilité pour les historiens de travailler de façon sereine et apaisée sur ce qui s'est passé ou non, les ordres qui ont été donnés ou non, les responsabilités, et si oui, lesquelles et de qui, de la France au Rwanda.
Parce que la question est toujours d'actualité.
Voilà, alors il y a une mission qui a été mise en place en 2019, qui avait 2 ans pour rendre ses conclusions, qui est présidée par Vincent Duclerc, mais dans cet article, la difficile introspection de la France au Rwanda, Joël Ubrecht rappelle l'étonnement de la communauté scientifique quand Stéphane Audouin-Rouzeau, donc un de nos historiens qui connaît le mieux la question aujourd'hui, avait été écarté de cette mission, une décision qui n'avait pas été comprise du tout. Et non seulement Stéphane Audouin-Rouzeau, mais beaucoup de nos historiens qui connaissent le mieux la région des Grands Lacs, qui ne figurent pas non plus parmi les membres de cette commission.
Parce que ça, c'est une vraie question. On pourrait parler aussi de l'Algérie. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à regarder son passé dans les yeux, si j'ose dire ?
Oui, et il me semble que c'était une chose qu'on pouvait attendre du mandat d'Emmanuel Macron, qui avait manifesté à plusieurs reprises, en fait, son intention d'ouvrir un certain nombre donc d'archives, de laisser les historiens faire leur travail, mais aussi d'entamer un travail de mémoire. Donc sur la question de l'Algérie, il y a eu des gestes importants, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans l'assassinat de de Maurice Audin, par exemple. Et puis, le rapport de Benjamin Stora, qui vient de paraître. Alors, il faut espérer que ce travail va se poursuivre et que, effectivement, pendant ces 5 années de mandat d'Emmanuel Macron, on aura au moins tenté de regarder le passé de la France en Algérie, au Rwanda et ailleurs dans les yeux.
Je voudrais préciser, c'est un hommage que je vous rends, c'est que vous n'hésitez pas à parler de l'Afrique dans cette revue Esprit. Ça, oui. C'est à noter.
Je pense qu'il y a des
sous
liens...
Sous tous ces angles, sous tous ces aspects.
Voilà. Dans l'après-guerre, en fait, si on veut faire un petit peu d'histoire, dans l'après-guerre, les gens qui animaient la revue Esprit, les personnes qui animaient la revue Esprit autour d'Emmanuel Mounier, s'étaient fait créer des liens d'amitié et d'amitié intellectuelle, notamment dans la Résistance. Et ils ont très vite, en fait, noué également des liens avec des intellectuels au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, autour de la question de la décolonisation. Donc c'est une revue qui était fermement engagée pour la décolonisation et qui, dans le même temps, se méfiait de la violence politique assumée par un certain nombre de mouvements de libération nationale. Donc typiquement sur la question algérienne, la France était très engagée pour la décolonisation en Algérie, mais la revue Esprit était très engagée sur la question de l'Algérie, mais se méfiait énormément du FLN. Et donc essayait de tenir les deux bouts de la corde.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Je salue cette semaine Fabrice Ayamba qui nous écoute avec passion, dit-il, à Yaoundé au Cameroun. Bonjour à Medoune à Niamey au Niger. Il salue sa famille à Rufisque au Sénégal. Bonjour à Amadou Balo à Conakry.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Un salut cordial également à Oke Kwadjo, à Tabligbo et à Cyril à Kara au Togo. Un salut à Sandy Muzungutoni qui habite le territoire de Fidji en RDC, à Julien à Ouagadougou, à Joseph à Bukavu. Bonjour à Mamoussa qui travaille à Radio Anfani à Zinder au Niger et à Patricia qui nous suit elle à Libreville.
Sept jours en Afrique.
Et partons pour Bangui, Anne-Lorraine Bujon, Alfred Yekatom et Patrice-Edouard Gaïsona devant la justice. Le procès des deux chefs de milice anti-Balaka en Centrafrique s'est ouvert mardi à La Haye. Ils sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre décembre 2013 et décembre 2014. C'est le premier procès à se tenir à la CPI sur cette crise centrafricaine qui a vu s'affronter ex-Séléka et milice anti-Balaka. C'est une étape importante pour les victimes, en tout cas. Écoutez par exemple le témoignage poignant d'Ousmane Abdoulaye, dont la vie a basculé en décembre 2013. Notre envoyé spécial, Florence Maurice, l'a rencontré dans le quartier PK5 à Bangui.
La cicatrice d'une balle reçue dans la main gauche et une large entaille à l'arrière de la tête. Ousmane Abdoulaye, 28 ans, porte encore bien visible les stigmates de l'attaque subie par lui et sa famille en décembre 2013.
Ils ont tué 6 personnes dans ma famille, dont mon père et ma mère, sous mes yeux. Et quand j'ai essayé de m'enfuir, j'ai reçu une balle. Je me suis effondré. Puis ils m'ont cisaillé la tête à la machette. Et ils sont repartis.
Laissé pour mort au milieu des cadavres de ses proches, Ousmane Abdoulaye ignore par quel miracle il a pu être secouru ce jour-là, mais ses blessures l'habitent encore.
À cause du choc que j'ai reçu, dès qu'il fait très chaud, je souffre de maux de tête. Certains jours, j'ai un bon moral et je dors bien. Mais il arrive aussi que la nuit, je repense à tout ce qui s'est passé. Et je fais des cauchemars.
Recueilli au sortir de l'hôpital par un ami de son père, Ousmane Abdoulaye tente depuis de se reconstruire. Il dit espérer que le procès qui s'ouvre à La Haye apaise sa colère, même si, dit-il, la justice ne lui rendra jamais les siens.
La première phase de ce procès s'est donc terminée jeudi à la Cour pénale internationale. 3 jours d'audience durant lesquels chacun a donné sa déclaration liminaire, entre guillemets, c'est-à-dire introduit les arguments, preuves et témoignages qu'il développera au cours de la prochaine étape à compter du 15 mars prochain. François Mazet.
Pour le parquet, aucun doute. Patrice Edouard Gaïssona était un chef politique incontestable des anti-Balaka, un des principaux relais de l'ancien président François Bozizé, dont il partageait le plan de reprendre le pouvoir par les armes. Homme d'affaires riche et influent, il aurait financé, armé, structuré, donné des ordres aux milices, dont celle d'Alfred Yekatom, qui a semé la terreur à Bangui, à Bossangoa ou sur l'axe PK9 Mbaïki, des exactions visant en particulier les musulmans et longuement décrites par l'accusation. Cette version est soutenue par les représentants des plus de 1400 victimes, nombreuses à subir encore aujourd'hui les conséquences des violences de l'époque. Pour l'avocat de l'ancien ministre, en revanche, le parquet a une interprétation erronée des actions de Patrice Edouard Gaïssona. Il s'est précipité, dit-il, sur des éléments qui ne tiennent pas. La preuve, selon lui, plus de 60 témoins qui le dédouanent ont été écartés. La défense ajoute que Patrice Edouard Gaïssona n'était qu'une voix et un visage des anti-Balaka, qu'il n'avait aucun contrôle sur ces groupes, né de manière spontanée, désordonnée, sans chef politique, et qui ne forme pas, selon lui, une organisation telle que définie par le statut de la Cour. Il sera impossible de le condamner au-delà de tout doute raisonnable, conclut-il.
Suite et fin d'une semaine d'actualité, Anne-Lorraine Bujon, pour oublier toutes ces horreurs et ces crises, ces guerres, parlons un petit peu de culture justement. On parlait de notre soif de culture il y a quelques minutes. Je précise que sur le site et dans la revue d'ailleurs, Esprit, la culture a la part belle sous toutes ses formes. Aussi.
Voilà, nous aimons dire que nous sommes une revue d'idées et de culture parce qu'on a besoin de culture pour se représenter notre place, notre rôle dans le monde. Et c'est un des intérêts du site internet de pouvoir publier des articles sur l'actualité culturelle quand il y a une actualité culturelle. Alors d'habitude, nous restons attentifs aux sorties de films dans les cinémas, à ce qui se passe au théâtre, voire à l'opéra. Il nous arrive de publier aussi sur l'opéra. Alors évidemment, en ce moment, depuis le début de l'épidémie et des mesures de confinement, il s'agit plutôt de culture en chambre. Mmh. Mais je vous renvoie quand même à deux ou trois petites choses que nous avons publiées sur ces sujets récemment. D'abord, un bel article de Jean-François Boutors, « La culture, un essentiel démocratique », où il rappelle que ça n'est pas un hasard si la tragédie et la démocratie sont nées au même moment à Athènes, puisque c'est vraiment la tragédie qui nous permet de nous représenter et donc aussi de devenir des acteurs politiques. Et on s'aperçoit aujourd'hui, je trouve, qu'on manque terriblement de représentation de l'épidémie et de ce qu'elle nous fait. Mais on a pu publier sur des films d'épidémie au cinéma, notamment Contagion de Soderbergh. Et puis un petit article, je vous signale un article de Patrick Vaudet sur une belle exposition sur les ruines, une exposition de photos de Joseph Koudelka qui était à la Bibliothèque nationale de France mais qu'on peut découvrir en ligne. Également un petit article sur la cinéaste Alice Guy intitulé « Comment a-t-on pu oublier Alice Guy ?» Alors moi j'ignorais même qu'Alice Guy ait existé, mais figurez-vous que c'est une pionnière du cinéma qui a travaillé en même temps que Louis Lumière, donc ça se découvre notre site.
Avec
voilà,
plaisir,
ainsi qu'un entretien vidéo avec Dominique de Fonréau, qui est conservatrice au Louvre et qui évoque l'expérience muséale. Quel avenir pour l'expérience muséale ? Donc ça nous donne grande envie de retourner au musée dès que ce sera possible.
Et en attendant, Anne-Lorraine, ça nous donne grande envie d'aller sur votre site pour se nourrir de tous ces articles et pour s'enrichir un peu l'esprit et s'oxygéner un peu les neurones, si j'ose dire. Merci Anne-Lorraine Bujon.
Merci.
À lire donc la revue Esprit, allez sur le site de cette revue. Et nous, on se retrouve dans un mois, fin mars, pour le numéro de mars qui paraîtra, on en parlera en son temps.
Voilà, merci.
Merci Anne-Lorraine. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées. Nous serons en compagnie de la philosophe Corinne Pelluchon et avec elle, à l'appui de son nouveau livre, nous parlerons de ce que représentent les Lumières aujourd'hui après notre émission sur Diderot dimanche dernier. Les Lumières d'hier et d'aujourd'hui, donc Idées demain dimanche, 16h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.
tout à l'heure sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,